chapitre 1, verset 17, jusqu'au 2, verset 5. Juge 1, verset 17. Et Judas s'en alla avec Siméon, son frère. Ils frappèrent le Cananéen qui habitait à Tsephath et détruisirent entièrement la ville. Et on appela la ville du nom de Horma. Et Judas prit Gaza et ses confins, et Ascalon et ses confins, et Écron et ses confins. Et l'Éternel fut avec Judas, et il prit possession de la montagne, car il ne dépossédait pas les habitants de la vallée, parce qu'il avait des chars de fer. Et on donna Hébron à Caleb, comme Moïse l'avait dit, et il en a dépossédé les trois fils d'Anak. Et les fils de Benjamin ne dépossédèrent pas les Jébusiens, habitants de Jérusalem. Et les Jébusiens a habité avec les fils de Benjamin à Jérusalem jusqu'à ce jour. Et la maison de Joseph eux aussi, montèrent à Bethel, et l'Éternel fut avec eux. Et la maison de Joseph fit reconnaître Bethel. Le nom de la ville était auparavant Luz. Et les gardes virent un homme qui sortait de la ville. Ils lui dirent, « Montre-nous, nous t'en prions, par où l'on entre dans la ville, et nous userons de bonté envers toi. » Il leur montra par où l'on entrait dans la ville. Ils frappèrent la ville par le tranchant de l'épée, mais ils laissèrent aller l'homme et toute sa famille. Et l'homme s'en alla dans le pays des Éthiens, et bâtit une ville, et l'appela du nom de Luz. C'est là son nom jusqu'à ce jour. Et Manassé ne dépossédait pas Beth-Shéan et les villages de son ressort, ni Taanak et les villages de son ressort, ni les habitants de Dor et les villages de son ressort, ni les habitants de Jibléon et des villages de son ressort, ni les habitants de Megiddo et des villages de son ressort. Et le Cananéen voulut habiter dans ce pays-là. Et il arriva que quand Israël fut devenu fort, il rendit le Cananéen tributaire. Mais il ne le dépossédait pas entièrement. Et Éphraïm ne déposséda pas le Cananéen qui habitait à Gézer. Mais le Cananéen a habité au milieu d'eux à Gézer. Zabulon ne déposséda pas les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol. Mais le Cananéen a habité au milieu d'eux et fut rendu tributaire. Aser ne déposséda pas les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni Achlab, ni Akzib, ni Elba, ni Afik, ni Rehob. Et l'Azérite a habité au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les dépossédaient pas. Nephtali ne déposséda pas les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anath. Il a habité au milieu des Cananéens, habitants du pays. Mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath lui devinrent tributaires. Et les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan, car ils ne leur permirent pas de descendre dans la vallée. Et l'Amoréen voulut habiter dans la montagne de Hérès à Aïjalon et à Shaalbim, mais la main de la maison de Joseph devint forte, et ils furent soumis aux tribus. Et la frontière de l'Amoréen était depuis la montée d'Akrabim, depuis le rocher et en dessus. Et l'ange de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim. Il dit, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai introduit dans le pays que j'avais promis par serment à vos pères. Et j'ai dit, je ne romprai jamais mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous démolirez leurs autels et vous n'avez pas écouté ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Et aussi j'ai dit, je ne les chasserai pas de devant vous, ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront en piège. Et il arriva que, comme l'ange de l'Éternel disait ces paroles à tous les fils d'Israël, le peuple éleva sa voix et pleura. Ils appelèrent le nom de ce lieu-là, Bokim. Ils sacrifièrent là à l'Éternel. Peut-être aussi un verset dans le Nouveau Testament, Philippiens 2, dans notre premier cantique, nous avons pensé à ce fait que le Seigneur nous a instruits en vue de ces moments où nous serions seuls, où il serait absent. Dans Philippiens 2, nous avons l'exemple donc de l'apôtre Paul, où il écrit dans versets 12 et 13. « Ainsi donc, mes bien-aimés, de même que vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais beaucoup plus maintenant en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui opère en vous, et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Le parallèle ici, c'est pas 100% avec le livre de Jude, parce que dans l'épître aux Philippiens, on n'est pas encore dans le pays. L'épître aux Éphésiens nous place dans le pays. Mais la pensée ici, c'est quand même instructive, que nous avons des instructions, et maintenant, dans l'absence des apôtres, nous devons maintenant mettre en pratique ces instructions. Ça, c'est la pensée générale qui est en parallèle. Josué n'était plus là. Maintenant, le peuple devrait mettre en pratique ce que Josué avait enseigné. Paul, l'apôtre Paul, n'est plus avec nous. Cette génération des anciens n'est plus avec nous. Mais nous avons maintenant les ressources, comme nous avons vu un peu ce matin, qui nous aident pour mettre en pratique les pensées de Dieu. Et c'est le vouloir et le faire que Dieu opère, vous voyez, c'est le côté de Dieu. Verset 13. De notre côté, nous devons travailler. Pas pour atteindre, je veux dire pour obtenir le salut, ça c'est pas la pensée, mais pour mettre en pratique les pensées de Dieu. Ça c'est salutaire, pratiquement. Ça nous garde contre les influences du monde. Ça c'est le salut pratique qu'on voit ici. Et un autre verset encore dans Ésaïe 63. Nous avons lu dans notre chapitre des juges, de l'ange. Et c'est pour ça que j'aimerais lire aussi Ésaïe 63. On a dans les juges donc un résumé des manques du peuple. Pas seulement leur faiblesse, mais aussi leur chute. Et ce qui nous frappe, c'est de voir que le Seigneur était avec eux quand même. Si nous avons une chute, le Seigneur ne nous abandonne pas parce que nous appartenons à lui. Nous sommes son peuple. Et la même pensée, on trouve dans Ésaïe 63. L'ange a pleuré à Bochim, on va voir ça plus tard, mais il était avec son peuple, malgré leur déclin, malgré leur faiblesse. Dans Ésaïe 63, verset 8, il dit, « Certainement, ils sont mon peuple, des fils qui ne mentiront pas. » Ça, c'est l'aspect de Dieu, comme j'ai mentionné dans Philippiens 2, verset 13, c'est l'œuvre de Dieu, des fils qui ne mentiront pas. Par contre, de notre côté, on voit, il y a des manques, il y a même quelquefois des mensonges. Et on doit toujours discerner entre l'œuvre de Dieu d'un côté et notre responsabilité. Mais le fait que j'aimerais souligner maintenant, il est avec son peuple. Ils sont chutés, ils ont eu donc des chutes et des faiblesses. Et qu'est-ce qu'il dit? Et il est devenu leur sauveur. Dans le livre des juges, on va voir que Dieu envoie des sauveurs, pas seulement des juges, parce que la pensée d'un juge, c'est quelqu'un qui juge et même condamne s'il est nécessaire. Mais le mot juge est aussi administrateur, c'est quelqu'un qui prend soin du gouvernement. Et quelquefois, ces juges sont appelés aussi sauveurs. Et on va voir, si le Seigneur permet ça encore plus tard, comment le Seigneur Jésus s'est montré, ou Dieu s'est montré comme sauveur envers son peuple à travers ses juges, à travers ses sauveurs. Donc, il est le sauveur suprême, pour ainsi dire. Il peut se servir des hommes comme Othniel et plus tard Gédéon et d'autres sauveurs pour sauver son peuple pratiquement. Il est devenu leur sauveur. Maintenant, le verset 9, c'est vraiment un verset clé. Dans toute leur détresse, il a été en détresse. Eux ont pleuré, il a pleuré. Si vous êtes dans des situations difficiles où vous devez pleurer, le Seigneur pleure avec vous. Il était dans toute leur détresse. Il a été en détresse. Même si c'était leur propre faute. Il n'a pas fait des reproches, il n'a pas dit, OK, c'est votre faute, maintenant je vous laisse là. Non. Il est avec eux, mais malgré le fait qu'eux étaient à blâmer pour tout ce qu'ils ont fait. Voilà l'amour qu'on voit ici de la part de Dieu. Et l'ange de sa face les a sauvés. Vous voyez, l'ange est mentionné ici. On va voir ça aussi dans Juges 2. L'ange de sa face, donc l'ange de la présence de Dieu, qui représente Dieu, les a sauvés. Dans son amour et dans sa miséricorde, il les a rachetés. Il s'est chargé d'eux, il les a portés tous les jours d'autrefois. C'est donc le côté de Dieu. Et on voit toujours Néhémie 9, par exemple, on voit tout le résumé de cette histoire, ce que Dieu a fait. Mais, verset 10, ils se rebellèrent. Ce « mais » on trouve aussi dans Néhémie 9 et d'autres livres, Daniel 9 et d'autres portions de la parole qui nous montrent les manques du peuple, ce que le peuple a fait. Mais ils se rebellèrent. C'est ça le sujet des juges. L'intervention de Dieu, là, il les manque, mais même la rébellion de la part du peuple. Ils se rebellèrent et contristèrent l'esprit de sa sainteté, et il se changea pour eux en ennemi. On va voir dans le livre des juges que Dieu a envoyé des ennemis. Il les a envoyés. Il se changea pour eux en ennemi. C'était pour les châtier. Lui-même, il combattit contre eux. Mais c'était pour leur bien. On a ici les principes de la discipline de Dieu. Si vous voulez placer un autre mot-clé sur le livre des juges, c'est la discipline. C'est pour instruire, pas seulement pour instruire son peuple et diriger son peuple, aussi pour les discipliner. Mais le but, c'est toujours qu'ils puissent jouir de ces bénédictions que Dieu a dans son cœur. C'est ça. Il veut les ramener. Puis, si vous voulez continuer la lecture d'Ésaïe 63, c'est très enrichissant. On voit comment il s'est souvenu d'eux et de leurs besoins. Et c'est encore la même chose aujourd'hui. Et on pourrait dire encore plus. Parce que la relation dans laquelle nous avons été placés, est beaucoup plus intime encore que la relation qu'Israël avait avec Dieu. Le Dieu de l'Alliance, on a lu qu'ils ont abandonné l'Alliance. L'Alliance nous parle de l'amour que Dieu avait pour son peuple. La relation entre Dieu et son peuple. Plus tard, on va voir, c'est comme un mariage, un lien d'amour que Dieu avait avec son peuple. Maintenant, le lien que Dieu a avec nous est encore beaucoup plus intime. Et on le sait, Christ et l'Assemblée, c'est une relation qui dépasse encore cette relation qu'on voit entre Israël et l'Éternel. Et ces choses, comme nous avons vu ce matin dans 1 Corinthiens 10, ont été écrites pour notre avertissement et aussi pour notre encouragement. Maintenant, juge 1, j'aimerais aussi mentionner, si vous prenez des notes, vous pouvez peut-être le faire une fois, lire le psaume 107. Dans le psaume 107, on voit les voies de Dieu avec son peuple. Comment ils, de leur côté, étaient infidèles, comme dans le livre des juges, et comment de son côté, il a sauvé, il est venu à leur aide. Et ainsi, il y a d'autres passages, comme j'ai mentionné Apocalypse 2 et 3, où on a tout un aperçu de l'histoire de l'Église et aussi les interventions de Dieu. On voit donc, d'un côté, l'état moral qui est nécessaire pour jouir du pays. Si vous voyez, si Dieu donne des choses, pour donner un exemple, Israël aujourd'hui est dans leur pays, le pays de leur promesse. Mais la condition dans laquelle ils se trouvent là n'est pas selon les pensées de Dieu. Donc Dieu ne peut pas encore donner vraiment la jouissance de ce pays sans empêchement. Par contre, lorsqu'ils se convertissent, lorsqu'ils se repentent, là, il va leur donner la jouissance de ce pays. Et ainsi, c'est pour nous. Dieu nous a donné toutes les bénédictions célestes, aucune exception. Pour en jouir, il faut que notre condition soit en accord avec ses pensées. Ça, c'est maintenant la grande question. Et on voit donc que la condition du peuple n'était pas correcte. Il y avait des exceptions individuelles, comme Caleb, on a vu, Othniel, Aksa. Ça, c'est l'état moral que Dieu aime voir avec nous, pour pouvoir jouir de ses bénédictions. Et on a aussi vu les ressources qui sont toujours là, même dans un temps de déclin, même dans un temps où tout semble être perdu, les ressources de Dieu ne changent pas. Et Dieu travaille toujours selon les mêmes principes, encore aujourd'hui, dans les temps de la fin de la dispensation. Peut-être on peut simplement suivre maintenant les pensées qui nous sont présentées maintenant dans Juges 1. La deuxième partie du Juges 1 souligne maintenant le déclin. Au début du chapitre, on a vu déjà des faiblesses, ils n'ont pas obéi 100%, mais on a eu aussi de bons exemples. Dans le restant du chapitre 1, c'est plutôt un résumé de leur déclin. Peut-être même un ordre chronologique, je ne le sais pas, mais en tout cas, c'est un ordre moral. Le déclin va de plus en plus bas. Judas, de nouveau, est mentionné le premier, avec Siméon, peut-être selon cette promesse que Judas avait faite au début du chapitre. Judas dit à Siméon, son frère, « Monte avec moi dans mon lot, et moi aussi j'irai avec toi dans ton lot. » Verset 3. « Ils frappèrent le Cananéen, et détruisirent entièrement la ville. » J'aimerais souligner que c'était selon les pensées de Dieu, absolument. On a vu ce matin comment il était nécessaire de mettre en pratique tout ce que Dieu avait dit. Et il y a des références, peut-être juste une référence, Deutéronome 7, verset 2, où Moïse avait dit qu'il devrait faire ceci. Deutéronome 7, verset 1, « Quand l'Éternel ton Dieu t'aura introduit dans le pays où tu entres pour le posséder, et qu'il aura chassé de devant toi des nations nombreuses, etc., cette nation plus nombreuse et plus forte que toi, donc ça c'est la conquête du pays sous Josué. Dieu a chassé toutes ces nations. Maintenant, verset 2, que l'Éternel ton Dieu les aura livrés devant toi et que tu les auras frappés, okay, ça c'est Josué. Tu les détruiras entièrement. Ça c'est maintenant la responsabilité de ceux qui vivent après Josué et aussi à nous. Détruira entièrement comme un anathème. Vous voyez, Dieu, dans sa sagesse, il a laissé survivre certaines de ces nations, ou une partie de ces nations, pour tester son peuple, pour les mettre à l'épreuve, vous voyez. C'est ça que Dieu fait maintenant dans Juges 1 et 2. Il a donc, dans sa sagesse, laissé survivre de ces nations pour que les nouvelles générations seraient maintenant placées devant ces tests. Et c'est pour nous la même chose. Nous devons faire exactement la même chose ou les mêmes choses que nos ancêtres spirituels ont fait. Tu ne traiteras point alliance avec elles. On va revenir sur ça dans Juges 2. Et tu ne leur feras pas grâce. C'est très clair et ce matin j'ai essayé d'expliquer un peu pourquoi il fallait qu'ils détruisent ces peuples entièrement, pas seulement pour exécuter le jugement de Dieu qu'ils avaient mérité, mais aussi pour prévenir à l'ennemi que ces nations deviennent un piège pour le peuple de Dieu. Donc ici, Judas est obéissant et on appela la ville du nom de Horma. Horma veut dire donc, selon la note, entière destruction. Voilà un exemple positif. Et ça continue encore un peu. Et Judas prit Gaza et ses confins et Ascalon et ses confins. Il faut réaliser que toutes ces nations différentes ont une certaine signification. Le Cananéen, ça c'est le mot général pour ces nations-là, mais dans la parole de Dieu, le Cananéen représente donc une race maudite. On le voit déjà dans Genèse 9, où l'ancêtre donc de cette nation-là était maudit par Noé. Et ainsi, ces nations toutes étaient caractérisées par cette malédiction que Dieu avait donnée. Il était sous la malédiction de Dieu et identifié entièrement avec les intérêts du diable. C'est pour ça qu'il devrait être détruit entièrement. Mais il y a aussi d'autres ennemis. Verset 18 se réfère aux Philistins. Les Philistins étaient des descendants du père ou de l'ancêtre de l'Égypte, qui est devenu plus tard l'Égypte, Mitzraïm. Et eux sont venus de l'autre côté, donc soit de la mer ou de l'Égypte, pour posséder le pays. Tandis que le peuple de Dieu, eux, ont connu la sortie de l'Égypte, ont connu la traversée de la mer Rouge, ont connu toutes les expériences du désert, ont connu l'entrée du pays par le Jourdain. Tout cela implique des leçons spirituelles. On n'en a pas pu parler ce matin. Ça prendrait l'étude donc de l'Exode et surtout de Josué pour voir ce que tout cela signifie pour nous pratiquement. Mais Dieu veut avoir un peuple dans ce pays-là qui a connu toutes ces leçons, qui a expérimenté toutes ces œuvres de Dieu, comme on va voir plus tard dans chapitre 2, toute la grande œuvre de l'Éternel, qui a réalisé la conversion, qui a réalisé la protection par le sang de l'agneau de Pâques, qui a réalisé la délivrance de l'Égypte, qui a réalisé la traversée à travers la mer Rouge, donc identifiée avec la mort de Christ, ou plutôt la mort de Christ pour eux, les leçons du désert. Dieu veut avoir un tel peuple dans le pays, pas les Philistins. Ainsi, on voit donc que les Philistins étaient ici détruits, mis de côté. Plus tard, ils remontent de nouveau. Mais initialement, on voit ici que Judas a suivi les pensées de Dieu. Pour les Philistins, il n'y a aucune place dans le pays de Dieu. Une race qui n'a aucune place là. Donc, Judas connaît les pensées de Dieu ici. Mais, qu'est-ce qu'on va voir maintenant dans le verset 19? Ça peut nous arriver aussi, vous voyez, qu'on fait certaines choses qui sont correctes, mais on a fait la volonté de Dieu, parfait. Qu'est-ce qui arrive maintenant? On a vu déjà que Judas voulait avoir son frère avec lui. Ça, c'est un bon signe d'un côté, mais peut-être c'était un manque de confiance aussi. Et on voit ici qu'il va même manquer de confiance envers Dieu. L'Éternel fut avec Judas. C'est le côté de Dieu, comme nous avons vu dans Ésaïe 63 aussi, comment Dieu était avec son peuple. Philippiens 2, comment Dieu travaille en nous. Il est avec nous. je pense, lorsque je lis ça, l'Éternel fut avec Judas, je pense à la promesse que le Seigneur Jésus nous a laissée, Matthieu 28, verset 20, « Moi, je suis avec vous tous les jours. » Quelle promesse merveilleuse! C'est la fidélité de Dieu. Il prit possession de la montagne. Ce sont donc des victoires que Dieu lui a données, mais, qu'est-ce qu'on lit? « Car il ne déposséda pas les habitants de la vallée. » Pourquoi? Parce qu'il avait des chars de fer. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel fut avec Judas. Dans le livre de Josué, on voit que par la présence de Dieu, même une grande ville comme Jéricho est tombée. C'est par la foi de la part du peuple. Ici, j'aimerais suggérer, il y a un manque de foi du côté de Judas. Manque de confiance. Et ça peut nous arriver facilement. On peut faire certaines choses selon les pensées de Dieu, et puis à un moment donné, on manque de foi. Peut-être, on pourrait suggérer ici, une autre leçon qu'on va voir plus tard, mais je veux le mentionner maintenant. Il n'est pas monté de Gilgal. Lorsqu'il a fait ses expéditions, il n'était pas auparavant à Gilgal. Comme dans Josué, on voit que tous les combats qu'ils ont eus, toutes les expéditions ont commencé de Gilgal, la place de la circoncision. C'est là où ils ont exprimé pratiquement cette dépendance de Dieu, qu'ils n'ont pas mis de confiance dans la chair. Le moment où on met la confiance dans la chair, on va manquer. Et ici, on voit que Judas manque. Il ne déposséda pas les habitants de la vallée. Donc, comme je suggère, à cause du fait qu'il n'était pas vraiment circoncis pratiquement, ça veut dire qu'il n'avait pas vraiment jugé la chair. C'est le point de départ. Lorsqu'on manque de juger soi-même, on met peut-être une certaine confiance en nous-mêmes ou dans les autres ou d'autres ressources que l'homme peut fournir, puis là, c'est le point de départ. Comme on voit le point de départ dans l'Apocalypse, ils ont abandonné leur premier amour. Le Seigneur Jésus n'était pas vraiment tout pour eux. Ainsi, on pourrait peut-être suggérer, l'Éternel n'était plus vraiment tout pour Judas. L'Éternel avait perdu sa place dans le cœur de Judas. Et ça, c'est le point de départ. Lorsque le Seigneur perd sa place suprême dans notre cœur, on n'est plus vraiment sous l'impression de la grandeur de Dieu, de sa toute-puissance, de son amour. Ça, c'est le point de départ. Et on le voit donc ici, déjà dans le verset 19. Et où est-ce que ce point de départ va nous amener? Ça va nous amener donc jusqu'au point où l'ennemi est entièrement en contrôle, comme dans l'Odyssée, vous voyez, à la fin du chapitre 1. Verset donnant Hébron à Caleb. Caleb, c'est le vainqueur. Je ne sais pas si j'ai mentionné ce matin déjà cette expression, mais ça va aider beaucoup si on comprend que les leçons que nous voyons dans les réveils que Dieu donne, ce sont les vainqueurs. Et nous avons parlé des ressources que nous avons. Voilà, celui ou celle qui utilise ces ressources, qui met sa confiance dans le Seigneur, qui voit la grandeur de Dieu, qui lui donne sa place, sera un vainqueur. Caleb était un vainqueur, Aksa, sa fille, Othniel, son beau-fils, étaient des vainqueurs. Comme Moïse l'avait dit, ça se réfère à la promesse générale que Moïse avait faite. Il en a dépossédé les trois fils d'Anak. On en a parlé ce matin un peu. Anak veut dire le coup, c'est ça. Anak s'est donc caractérisé par la propre volonté, qu'il ne voulait pas plier son cou devant l'Éternel. Puis l'Éternel le met de côté. On a vu aussi que ses fils, les produits de la propre volonté, sont mis de côté. Autrement, on ne peut pas avoir la communion. On ne peut pas jouir de la communion lorsqu'un élément de la propre volonté est maintenu. Maintenant, on suit donc cette ligne de pensée, ce déclin graduel. C'est très graduel, vous voyez. Qui aurait pu dire à Judas, « Mais Judas, tu as manqué » dans le verset 19. Il fallait vraiment connaître son cœur pour pouvoir ça. Mais l'Esprit nous révèle ici un peu le fait qu'il ne voulait pas déposséder ses habitants de la vallée parce qu'il avait des chars de fer, montre ce manque dans leur cœur. Et parce que dans Josué, on voit que tous ses ennemis avaient des chars de fer, mais étaient détruits quand même à cause de la présence de Dieu. Verset 21, les fils de Benjamin ne dépossédèrent pas les Jébusiens, habitants de Jérusalem. On a vu ce matin qu'ils ont pris Jérusalem, mais peut-être ses ennemis sont revenus là. Ou bien on doit penser que ça se réfère ici à la citadelle de Jérusalem, la forteresse. Quoi qu'il en soit, on voit ici que Benjamin n'était pas fidèle. Et le Jébusien a habité avec les fils de Benjamin à Jérusalem jusqu'à ce jour. À Jérusalem, la ville du grand roi. Imaginons que dans cette ville qui appartenait au grand roi, il y avait ses ennemis. Mais là, on voit quand même que Dieu est en contrôle. Dieu, c'est tellement merveilleux de voir, parce que plus tard, sur le champ d'Orona, le roi des Jébusiens, le temple a été construit. Je ne sais pas, plus tard, même des fils des Jébusiens ont eu une place dans le service du temple. Détruit là, c'est un manque de la part de Benjamin, mais on voit plus tard que Dieu a calculé tout ça dans ses plans, il s'est servi des Jébusiens en rapport avec le temple. Mais ce côté-là n'est pas mentionné ici parce que ici, le point qui est souligné, c'est le manque de la part de Benjamin. Verset 22, et la maison de Joseph. Il faut réaliser ici qu'on parle maintenant des tribus qui sont dans le pays. C'est quelque chose que je n'ai pas mentionné ce matin. Il y avait parmi les tribus de Jacob, il y en avait qui ont trouvé leur portion dans l'autre côté du Jourdain. Et cette partie nous parle des bénédictions terrestres. Juste brièvement, pour le relever, Dieu a donné ses portions par Moïse à ces tribus-là. Mais le point, c'est qu'eux n'avaient pas assez d'intérêt pour habiter dans le pays. On parle ici des choses dans le pays. Et pour le chrétien, pour nous aussi, Dieu nous donne des bénédictions terrestres. Mais il a plus à donner, vous voyez. Et le pays a affaire avec ces bénédictions typiquement chrétiennes. Le fait que vous avez une bonne santé, c'est une bénédiction terrestre. Mais il y a aussi beaucoup d'incrédules qui ont de telles bénédictions. Ce sont des bénédictions que Dieu donne comme créateur. Mais le pays a affaire avec les bénédictions ou un héritage que Dieu donne aux chrétiens. Ça, c'est le point à saisir. Et là, on voit comment ces tribus, qui sont donc des illustrations pour nous, les chrétiens, comment ils ont manqué à posséder leur héritage, à déposséder l'ennemi, et comment nous aussi manquons à le faire, et comment dans l'histoire de l'Église, l'Église a manqué à le faire. Et ce déclin graduel nous est présenté ici. Voilà, on a vu déjà Hébron, une ville importante, on a vu Jérusalem, la ville en relation avec le service et l'accès de Dieu. Maintenant, Bethel est mentionné, une autre ville très importante. La maison de Joseph, eux aussi, montèrent à Bethel. Bethel est mentionné, je pense, pour la première fois dans l'histoire d'Abraham. Lorsqu'il est entré dans le pays, il a construit un autel pour l'adoration. Le premier autel qu'il a construit là, dans le pays, c'était près de Sichem. Mais le deuxième hôtel était près de Bethel. Donc, le premier hôtel, c'est pour reconnaître le pays, pour être reconnaissant en rapport avec le pays. Mais dans le deuxième hôtel, il exprime sa communion avec Dieu, l'accès de Dieu, près de la maison de Dieu. Bethel veut dire maison de Dieu. Abraham déjà a joui de la présence de Dieu dans la maison de Dieu. Mais dans l'histoire de Jacob, on voit comment cela a pris de temps pour Jacob à réaliser la présence de Dieu dans la maison de Dieu. Et ce sont toutes des leçons pour nous aussi. Si vous voulez étudier tous ces passages en rapport avec la maison de Dieu, cela nous prendrait trop de temps maintenant. Mais c'est très intéressant de voir ce développement dans la vie de Jacob, comment il est venu, plus tard, revenu à Bethel pour jouir de la présence de Dieu, pour reconnaître que Dieu est le Dieu de Bethel. Il y a des chrétiens qui aiment avoir une religion, mais qui ne reconnaissent pas l'autorité et la place du Dieu de la maison de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, 1 Timothée 3, on voit donc la maison de Dieu. C'est Dieu qui a toute autorité là, toute la place. Mais ici, cette place était occupée par l'ennemi. L'ennemi ne reconnaît pas les pensées de Dieu, la grandeur de Dieu, aucune pensée dans le cœur de l'ennemi pour Dieu. Et donc, Joseph doit monter à Bethel et l'Éternel fut avec eux. Parce que c'est selon les pensées de Dieu qu'il monte à Bethel. C'est selon les pensées de Dieu si nous faisons des efforts pour prendre possession de la maison de Dieu dans le pays, que Dieu, où Dieu habite avec son peuple, où Dieu veut partager avec son peuple qui habite avec lui. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Ce matin, j'ai mentionné une méthode qu'il avait apprise là, des nations. C'était couper les pouces et les pouces de leurs mains et leurs pieds. C'était quelque chose qu'ils avaient appris de ces nations-là. Ici, ils utilisent une autre méthode des nations pour entrer dans la ville. Les gardes virent un homme. Donc les gardes, ce sont des soldats avec une mission spéciale de la tribu de Joseph. Joseph, ici, est mentionné donc Éphraïm et Manassé ensemble, vu comme Joseph, où Bethel était dans leur héritage, dans leur portion. Il utilise donc un homme de la ville, donc de l'ennemi, pour leur montrer le chemin. Montre-nous, nous t'en prions, par où l'on entre dans la ville. Peut-être une porte secrète, une entrée secrète, ou en général, le chemin pour entrer. C'est pas la porte qui était connue, mais la pensée, c'est comment ils pourraient prendre la ville. Et cet homme leur a mentionné la méthode. Comment prendre cette ville? Mais ça, c'est pas déposséder l'ennemi et détruire l'ennemi parce qu'il laisse l'homme vivre avec toute sa famille. Dieu avait dit qu'il devrait tuer toutes les nations, toute leur influence. Et puis, ici, il se place sous l'influence d'un homme avec une bonne intention. Vous voyez, c'est la même chose dans l'histoire de l'Église. L'Église a adopté des choses, des gentils, des païens, avec de belles intentions. L'intention était belle, mais la méthode n'était pas autorisée par Dieu. Aussi, un manque de foi, un manque vraiment de la part de Joseph, mettre leur confiance dans Dieu, qui leur donnerait l'intelligence nécessaire pour prendre la ville. On peut comparer ça avec les philosophies païennes qui ont été adoptées par l'Église, avec de bonnes intentions, mais ce n'est pas selon les pensées de Dieu. Et à la fin, ça veut dire que l'ennemi va contrôler le peuple de Dieu. Et on voit donc que cet homme, n'a pour lui-même, il n'a pas jugé vraiment les principes du passé. Vous voyez, si les païens entrent dans l'Église, c'est bon s'il y a de la repentance. Mais cet homme a continué à vivre et a maintenu ses mêmes principes. C'est ça qui est arrivé dans l'histoire de l'Église. Ils ont gardé leurs principes. Cet homme a construit justement une autre ville dans un autre pays avec le même nom. Donc ça veut dire qu'il a gardé le même principe. Los veut dire déviation. On pourrait traduire ce mot par déviation. Donc c'est comme une infection qu'on voit dans quelqu'un qui est malade, une infection. Il faut que ce soit quelquefois même que cette membre soit coupée du corps pour l'enlever, pour empêcher que ce membre infecté va affecter tout le corps. On peut le comparer avec le levain du mal qui entre dans l'Église. Dieu veut que nous ôtions ce levain, que nous mettions de côté entièrement ce mal. Ici, on voit qu'ils ont laissé vivre ces principes, cet homme avec ses principes. Et ainsi, on peut le retracer dans l'histoire de l'Église et quelquefois aussi dans notre propre vie. Et ainsi, la déviation reste et aura de graves conséquences plus tard. Dieu ne peut jamais accepter les principes de ce monde, même si nous avons les meilleures intentions. Dans Manassé, on voit que le déclin va encore plus loin. Verset 27 à la fin, le Cananéen voulut habiter dans ce pays-là. Ici, nous voyons la volonté de l'ennemi opposée à la volonté de Dieu et à la volonté du peuple de Dieu. Vous voyez, le peuple aurait dû s'identifier entièrement avec la volonté de Dieu. Et là, il aurait la victoire. Il serait plus fort que l'ennemi. Mais l'ennemi se laisse impressionner par la volonté du peuple, de la nation, des païens. Le moment où nous sommes impressionnés par ce monde, par la volonté de ce monde, on est perdu. Par contre, celui qui fait la volonté de Dieu, 1 Jean 2, verset 17, je pense, on voit que celui qui fait la volonté de Dieu reste pour toujours. Ici, ils se soumettent à la volonté des Cananéens. Donc, en autre mot, ils abandonnent la volonté de Dieu. Quelle grave déviation. Et peut-être on pourrait dire, mais quand même, verset 28, il arriva que quand Israël fut devenu fort, il rendit les Cananéens tributaires, mais il ne le déposséda pas entièrement. C'est ça que Dieu avait dit, entièrement. C'est ça que Juda a fait au début, pour déposséder entièrement et détruire entièrement. Ils n'ont pas fait. Le déclin continue et Éphraïm ne déposséda pas le Cananéen qui habitait à Gézer, mais le Cananéen a habité au milieu d'eux à Gézer. Ça va encore plus loin. Il ne parle pas ici de leur volonté, simplement le fait. Ça va de nouveau un peu plus loin, vous voyez, verset 29. Moi, j'ai compté tous ces points du déclin et j'en ai trouvé 10. On a eu verset 19, le premier point, verset 21, le deuxième point, verset 25-26, le troisième point, le Cananéen qui voulut habiter, le quatrième point. Ici, le fait que le Cananéen a habité simplement là, c'est le cinquième point. Maintenant, le verset 30, Le sixième point, Zabulon ne déposséda pas les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol, mais le Cananéen a habité au milieu d'eux. Ils étaient donc ici même au milieu d'eux. C'est de nouveau un progrès du mal. Verset 31, Azer, qu'est-ce qu'on lit à la fin? L'Azérite a habité au milieu des Cananéens. C'est encore un pas plus loin. L'autre verset, le Cananéen a habité au milieu d'eux. Maintenant, Azer est une minorité. Il habite au milieu des Cananéens. Vous voyez le progrès? Et c'est ici individuellement. Ici, l'Azérite peut être individuellement ou en famille. Mais le verset qui suit maintenant, c'est donc le huitième point, verset 33. Nephtali, comme tribu, a habité au milieu des Cananéens. C'est déjà un pas plus loin. L'Azérite, c'est individuellement, on pourrait dire, ok, ce sont quelques frères qui font ça. Mais ici, dans Nephtali, c'est toute la tribu. Si vous connaissez le livre de Josué, on comprend que les tribus, souvent, sont représentatives pour des rassemblements locaux, comme ce que tout un rassemblement fait. C'est pas seulement quelques individus, ici, c'est comme toute une tribu, tout un rassemblement ou toute une région de croyants qui habitent au milieu des Cananéens, comme une tribu entière. Verset 34, les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan. Ça va encore beaucoup plus loin. Ils ont seulement une place dans les montagnes. On pourrait dire, mais ça c'est une belle place pour habiter dans le pays. C'est vrai. Mais ça nous montre donc le progrès du mal de notre côté, le progrès du déclin. Dans le livre, dans l'Évangile selon Luc, on voit qu'il y avait des croyants qui ont habité dans les montagnes lorsque le Seigneur Jésus est né. Et là, on lit dans Luc 1 que ceux qui habitaient dans les montagnes ont parlé beaucoup de ces choses. Il y en avait là qui ont aimé les pensées de Dieu, mais ils étaient repoussés. Toute l'autorité était entre les mains des païens. Comme ici, l'autorité est entre les mains des Amoréens. Mais Dieu, par contre, il veut que nous montrions son autorité à lui et que nous ayons la victoire sur ces influences de ce monde. Verset 35, et l'Amorien voulut habiter dans la montagne d'Hérès, à Ajalon et à Shaalbim. Maintenant, il monte même à la montagne, il veut maintenant même rester dans la montagne. Vous voyez, Judas, il n'avait pas pris possession de la montagne. Oh, excusez-moi, il a pris possession de la montagne. Les autres, on a vu, ils ont pris possession de la montagne, mais pas de la vallée. Maintenant, l'ennemi ne permet pas même qu'ils prennent possession de la montagne. C'est donc encore un pas plus loin dans le déclin. C'est le dixième pas, verset 35. Mais la main de la maison de Joseph devint forte. C'est de nouveau donc qui arrive avec le temps. Quelquefois, ils sont devenus plus fortes, mais la situation est restée la même. Qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Peut-être on peut suggérer que cela a pris une période de temps de 20 ans à peu près. Dieu a beaucoup de patience. Il est resté pendant tout ce temps à Gilgal. Qu'est-ce que ça veut dire? Le peuple aurait dû partir toujours, comme ils l'ont fait dans Josué, de Gilgal. Gilgal était la place où il était circoncis. Qu'est-ce que ça veut dire? La circoncision veut dire la mise de côté de la chair. Mais pratiquement, ça veut dire que je juge moi-même. L'ennemi ne peut rien faire lorsque le peuple s'est jugé soi-même. Le moment où je garde quelque chose de la chair pour moi-même, là, l'ennemi peut avoir des victoires. Si je ne juge pas la fierté ou la médisance ou quoi que ce soit, il peut y avoir tant de choses de la chair. Si je ne juge pas ces choses et les mets de côté, pratiquement, comme Pierre dit, 1 Pierre 2, verset 1, que nous devons mettre de côté toutes ces choses-là, tous ces mots, on ne peut pas vaincre l'ennemi. L'ange de l'Éternel, on a lu de l'ange de l'Éternel dans Ésaïe 63, il est patient. C'est ici le représentant de l'Éternel. Ange veut dire le messager de l'Éternel, qui présente donc les pensées de Dieu. Il a attendu là à Gilgal. Gilgal était donc une place centrale du livre de Josué. On pourrait dire, Josué est caractérisé par Gilgal. C'était la position publique qu'ils ont prise, une position publique où il avait jugé la chair. Par contre, ici, on voit que Dieu a attendu, ils ne sont pas revenus à cette place-là. Ils n'ont pas continué à juger la chair. Et qu'est-ce qui arrive? Dieu permet maintenant que les ennemis restent dans le pays. C'était leur propre défaut. Dieu dit maintenant, ok, vous avez été infidèles, désobéissants, maintenant je laisse ces peuples dans ce pays. Je ne vous donne plus la force pour les mettre de côté, même si vous le voulez. Et ça, c'est le parallèle avec l'histoire de l'Église. À un moment donné, si vous avez le temps pour lire ces deux chapitres, Apocalypse 2 et 3, vous allez découvrir que 1, 2 et 3, donc Éphèse, Smyrne et Pergame, vont ensemble. Là, Dieu s'adresse encore à tout le peuple. Tout le peuple de Dieu était encore supposé de se convertir, de se repentir. Après ça, lorsque Thyatire arrive là sur la scène, Jézabel, la condition est tellement que Dieu ne s'adresse plus à tout le peuple. Il ne s'attend pas que ça change encore. Et ainsi, j'aimerais suggérer, Dieu change de position. Il part de Gilgal et va aller à Bochim. Maintenant, Bochim devient la place caractéristique pour le temps des juges. Bochim veut dire donc pleure, l'ange a pleuré, le peuple a pleuré. C'est maintenant la place qu'ils ont selon les pensées de Dieu. La place publique n'est plus Gilgal, où la chair était mise de côté. La place publique de leur relation avec Dieu, c'est une place de pleurs, où il n'y a plus de force pour mettre de côté l'ennemi, où Dieu permet que les ennemis restent dans le pays, toujours. Et la prochaine fois, si le Seigneur nous donne encore une occasion, on va voir pourquoi Dieu laisse ses peuples dans le pays. Verset 1, donc, du chapitre 2. « Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai introduit dans le pays. » Dieu rappelle ici l'histoire qu'ils ont eue, comment il s'est montré envers eux et comment il était infidèle. De son côté, il y avait une promesse, même par serment, vous voyez, c'est très fort. Une promesse que Dieu donne ne change jamais. Il a souligné cette promesse par un serment. Et j'ai dit, je ne romprai jamais mon alliance avec vous. Donc ici, on voit ce lien d'amour entre Dieu et son peuple, cette alliance qui nous parle de ce lien entre Dieu et son peuple, un lien tellement précieux. Dieu voulait garder ce lien, mais il ne pouvait plus donner la force à ce peuple qui correspond avec ce lien. Vous, pourquoi? Vous ne traiterez point alliance avec les habitants. Ce sont deux opposés, vous voyez. L'alliance avec l'Éternel, ou l'Éternel avec son peuple, est opposée à toute autre alliance. Et le peuple, en laissant vivre ces nations, se sont placés sous l'influence des nations, et plus tard on voit qu'ils se sont mariés. Ça c'est l'influence, ça c'est l'alliance, l'alliance par mariage, et ainsi l'alliance par les idolâtries, la fornication spirituelle aussi qui a eu lieu. Donc ça c'est l'alliance de la part du peuple. Donc ce mot suggère déjà que dès le début ils ont introduit l'idolâtrie là. Ils ont adopté certaines pratiques idolâtres de ces nations dès le début. Avec les habitants de ce pays, vous démolirez leurs autels. C'est donc l'élément de l'adoration. Donc, ils ont manqué partout, soit en prenant des femmes de la part des nations là, soit en laissant rester ces autels en rapport avec l'adoration. Vous n'avez pas écouté ma voix. Quelle chose solennelle. La voix de Dieu est tellement précieuse. Écouter la voix de Dieu, c'est un grand privilège. Mais ils ont rejeté la voix de Dieu. Au début, ils l'ont interrogé, vous voyez, qui de nous montra le premier? Ils l'ont interrogé pour écouter la voix de Dieu. Mais ici, l'ange de l'Éternel doit constater qu'ils n'ont pas écouté vraiment. Et on a vu tout ce chemin du déclin, même dès le début de Judas, où il a manqué dans son obéissance. Il n'a pas écouté vraiment. Maintenant, la conclusion, pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi? C'est comme un enfant désobéissant qui a fait quelque chose que lui ou qu'elle sait exactement de ne pas le faire. Le peuple était élevé par Josué, par Moïse, savait quoi faire, mais ils ne l'ont pas fait quand même. C'est comme des parents qui sont frustrés presque. On pourrait dire presque une question de frustration. Pourquoi avez-vous fait cela? Ce n'était pas nécessaire. Et aussi j'ai dit, je ne les chasserai pas. Maintenant, dans le gouvernement de Dieu, j'ai utilisé le mot discipline au début de cette réunion. Selon la discipline de Dieu, il y a maintenant des principes de son gouvernement qui entrent. Selon le gouvernement de Dieu, il laisse maintenant ses peuples, ses nations. Il était supposé de tuer ces nations, mais Dieu les laisse maintenant. Il ne leur donne pas la force pour les mettre de côté. Je ne les chasserai pas de devant vous. Donc, c'est un principe dans le gouvernement de Dieu. Si nous sommes désobéissants, Dieu nous expose aux conséquences de notre désobéissance. C'est le gouvernement de Dieu. Et ils seront à vos côtés. comme un jugement donc de la part de Dieu, mais comme un piège de leur part. Et leur Dieu vous sera un piège. De nouveau, ils seront donc placés toujours devant les conséquences de leur manque. Et ce sera, les nations seront un piège. Mais pour la foi, il y a toujours la possibilité de vaincre les ennemis, de ne pas se soumettre à ce piège, vous voyez. Ça, c'est toujours ouvert pour la foi. Le vainqueur a toujours la possibilité de ne pas faire ce que les autres ont fait. Ça, c'est le côté encourageant, qu'il y a toujours une possibilité pour le vainqueur de suivre les pensées de Dieu. Même dans les jours de déclin, j'ai mentionné Thyatire, on voit plus tard qu'il y a toujours, même à Thyatire, un reste qui est fidèle, qui écoute la voix de Dieu et qui met en pratique ses pensées. Malgré le fait que l'idolâtrie est là, que ces nations, les influences sont là, que la position publique est caractérisée par l'influence de l'ennemi. Donc, la position publique n'est plus caractérisée par Gilgal, la mise de côté de la chair, mais par l'influence de l'ennemi. Et à cause de cela, les pleurs, Bokim. Bokim était lié à Bethel, probablement. Dans Genèse 35, on lit Alon Bakout, et Bakout veut dire, c'est presque la même racine que Bokim. C'est là où Rachel avait pleuré. Et là, on voit ici maintenant que le peuple pleure, et dans chapitre, à la fin du verset 4, l'ange, probablement, a pleuré avec eux. Selon le principe d'Ésaïe 63, verset 9, il était en détresse avec eux. Il n'a pas dit, maintenant, je vous laisse entièrement. Non. L'ange était avec eux dans cette nouvelle position. Il a montré sa fidélité, malgré leur infidélité. 2 Timothée 2, qui nous parle de l'infidélité de la chrétienté, nous parle de la fidélité de Dieu, qui reste toujours le même. Le Seigneur reste le même. Mais il est donc important à réaliser que maintenant, la position publique est changée. Dieu ne leur donnera plus la force pour mettre de côté ses ennemis. Ils resteront toujours là. Et aussi, dans le sein de la chrétienté, l'ennemi sera là jusqu'à l'enlèvement de l'Église. On a à reconnaître ceci, et pour ça, on peut pleurer, on doit pleurer. L'ange pleure et en même temps, c'est une place où on peut reconnaître donc nos faiblesses et sacrifier. Verset 5, ils appelèrent le nom de ce lieu-là Bokim, donc c'était près de Bethel, la maison de Dieu, et ainsi ils ont aussi donné ces sacrifices, peut-être des sacrifices de délits, de péchés pour reconnaître, pour confesser leur péché, peut-être aussi des holocaustes, pour la gloire de Dieu quand même, parce que Dieu se glorifie toujours, malgré l'état du peuple. Il y aura toujours une façon dans laquelle Dieu va se glorifier, comme on va voir maintenant, plus tard, je veux dire, dans les juges. Dieu va toujours trouver un moyen pour se glorifier. Mais le point important ici à saisir, le peuple a pleuré, mais je pense pas qu'ils l'ont vraiment jugé soi-même ici. On va beaucoup plus tard, dans les jours de Samuel, dans 1 Samuel 7, là seulement, le peuple a vraiment confessé et abandonné les idolâtries. Ils ont enterré leurs idoles. On ne lit pas ça ici. Ils ont continué, comme on va voir, en public. Donc, la grande masse a continué avec cette idolâtrie, malgré leurs pleurs ici. Dans les Proverbes, on lit, il faut confesser nos péchés et les abandonner. Ils n'ont pas abandonné et peut-être pas même entièrement confessé leur état. Ils ont seulement pleurer à cause des conséquences de leur manque. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut se repentir, confesser et abandonner ces pratiques. Donc là, Dieu peut aider. Là, il peut introduire son bien-aimé, comme on le voit dans les jours de Samuel. Il a introduit le vrai David au milieu de son peuple. Ce n'était pas encore le temps. Mais le livre des juges est encourageant dans ce sens-ci que ça nous donne beaucoup de possibilités pour honorer Dieu dans le contexte donc, du déclin du peuple général. Il est toujours ouvert pour chacun de nous, honorer Dieu, prendre Dieu sur sa parole, pour ainsi dire, et mettre en pratique, comme Caleb a fait, ce que Dieu veut qu'on fasse. Si notre cœur est entièrement pour lui. Caleb, tout son cœur était pour Dieu, et comme j'ai dit, on ne lit pas qu'il est mort. Les juges, on lit toujours qu'ils sont morts. Mais l'état de Caleb peut continuer parmi le peuple de Dieu, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et ça, c'est la possibilité que vous et moi, nous avons pour honorer Dieu. Donc, Dieu permet que les sources du mal et de misère demeurent à côté du peuple, dans le pays même, à cause de leur infidélité et leur indifférence et manque de foi. C'est le gouvernement de Dieu. Mais de notre côté, Dieu donne toujours, malgré ceci, la possibilité à l'honorer. On pourrait l'appliquer ainsi, oui. C'est un état d'endurcissement où on perd la lumière.
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de retour.
Il y a toujours la possibilité d'un retour individuel. Mais on voit que le retour collectif n'est plus possible. Comme après Thyatire, lorsque Thyatire a commencé, il n'y a plus de restauration collective. Et ici, après ces 20 ans, il n'y a pas de restauration collective dans ce sens-là. Quoique, plus tard, ils ont enterré les statues sous Samuel. Mais je pense que ça va plus loin parce que je pense là, David est introduit comme un exemple de notre Seigneur Jésus, comme le Messie qui va régner sur ce monde. Donc si on continue ce chemin, on pourrait dire là où David vient, c'est donc le début du millénium, dans ce sens-là. Mais on ne voit pas qu'il y ait vraiment une restauration collective